BW. Vue d'Allemagne.
L'attentat qui a frappé le week-end dernier la ville de Solingen dans l'ouest de l'Allemagne a relancé le débat sur la politique d'asile. Et cela à quelques jours d'élections cruciales pour le pays. Décryptage dans un instant. En deuxième partie, on vous emmène au Chili où les Haïtiens représentent le quatrième groupe d'étrangers le plus important du pays. Mais ils ont de plus en plus de mal à obtenir des papiers. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro. Willkommen et bienvenue. Vous en a déjà beaucoup parlé dans Vue d'Allemagne. Trois Länder, les États régionaux, renouvellent leur Parlement en cette rentrée. Les deux premières élections en Thuringe et en Saxe se tiennent ce dimanche 1er septembre. Dans trois semaines, ce sera au tour du Brandebourg, la région qui entoure la capitale Berlin. Dans cette partie de l'Allemagne, le parti anti-immigration AfD caracole en tête des sondages depuis des mois. On le crédite d'au moins 32% en Thuringe, 30% en Saxe et 24% dans le Brandebourg. Mais cela, c'était avant Solingen. Vendredi 23 août, une attaque au couteau a fait 3 morts et 8 blessés lors d'une fête de la diversité organisée à l'occasion des 650 ans de cette ville de l'ouest de l'Allemagne. L'auteur présumé de la tuerie, qui a fini par se rendre aux autorités, est un Syrien radicalisé de 26 ans. Arrivé en décembre 2022 après avoir contourné une mesure d'expulsion, il vivait dans un centre pour réfugiés du centre-ville de Solingen, à proximité du lieu de l'attaque. Depuis que l'identité du tueur a été révélée, le débat sur l'expulsion de réfugiés dangereux est relancé. En visite auprès des familles des victimes à Solingen, le chancelier Olaf Scholz a lui-même affiché sa fermeté.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir et nous le devons pour que les personnes qui ne peuvent pas rester en Allemagne soient rapatriées et expulsées.
Mais cela ne suffit pas à l'opposition qui multiplie les déclarations dans les médias pour appeler à un changement de paradigme dans la politique d'asile. La CDU, partie de l'ex-chancelière Angela Merkel, dirigée aujourd'hui par Friedrich Merz, appelle ainsi tout simplement à ne plus accueillir aucun réfugié en provenance de Syrie ou d'Afghanistan. Une proposition contraire à la loi fondamentale allemande qui garantit le droit d'asile individuel. Le sujet monopolise l'attention à quelques jours des élections régionales où l'AfD risquait déjà de faire des scores historiques. Selon Carsten Koschmider, cela risque d'influencer le comportement d'électeurs encore indécis. Il est chercheur sur les partis politiques à l'Université libre de Berlin.
Si, après cet attentat, tous les partis, tous les politiciens et les médias ne parlent pratiquement plus que de procédures d'asile, d'immigration et d'expulsion, alors ce thème passe au premier plan. Cela ne change pas forcément l'attitude fondamentale des gens vis-à-vis des réfugiés, mais cela change ce à quoi ils pensent. Et quand ils seront dans l'isoloir, beaucoup de gens risquent de ne pas penser à la situation des écoles, qui joue toujours un rôle important lors des élections régionales, mais à l'immigration. Nous verrons probablement, après les élections, que ce thème aura joué un rôle important dans le choix des électeurs.
Pour le politologue, la stratégie menée par la CDU, qui semble espérer récupérer des voix en durcissant son discours, est dangereuse.
Si on regarde les études menées dans les pays européens ces dernières décennies, il est clair que c'est l'AfD qui profite au final de cette rhétorique et non la CDU. Donc c'est tout simplement stupide de la part des partis démocratiques de faire ça. Mais ils continuent quand même à le faire. En France, en Autriche et dans beaucoup d'autres pays, c'est la même chose. Ils font la même erreur. Mais on sait que ça ne marche pas et qu'au final, c'est l'extrême droite qui en profite.
Carsten Koschmider regrette également la tournure qu'a pris le débat depuis les événements de Solingen, concentré uniquement sur la question des réfugiés.
On pourrait aussi discuter du frein à l'endettement et de la raison pour laquelle la police est sous-financée, ou bien pourquoi on n'engage pas plus de policiers et pourquoi il n'y a pas plus d'argent pour la sécurité publique. Cela pourrait aussi être un thème, mais ce qui est discuté actuellement, surtout du côté de la CDU et de l'AfD, mais aussi du SPD, parce qu'ils ont peur d'être en quelque sorte mis à l'écart, ce sont les expulsions, le renvoi des étrangers et la fermeture des frontières.
En réponse aux exigences de la CDU, le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a en effet confirmé au micro de la chaîne publique ARD que la coalition gouvernementale composée du SPD, des Verts et des libéraux du FDP prendrait des mesures pour lutter contre le terrorisme.
Dans le domaine de la gestion de l'expulsion des délinquants multirécidivistes, le gouvernement travaille à des solutions également pour la Syrie et l'Afghanistan. En ce moment même, nous avançons sur le thème de la législation sur les armes et de l'interdiction des couteaux, notamment dans le cadre de discussions communes au sein du gouvernement fédéral.
Mais Kevin Kühnert a également mis en garde contre une généralisation et un simple durcissement de la loi.
Nous sommes confrontés à la radicalisation de jeunes hommes, de délinquants isolés. C'est ce phénomène qu'il faut désormais prendre en compte. Nous devons nous pencher sur les prédicateurs de haine, notamment sur la toile, et voir comment la radicalisation se produit, car notre société dispose d'une grande expertise dans ce domaine.
Quelques jours après l'attaque de Solingen, des représentants religieux ont appelé à la prudence face aux jugements hâtifs et aux réponses simplistes. L'évêque de Berlin a rappelé que la grande majorité des réfugiés vivant en Allemagne sont bien intégrés et apportent une contribution importante à notre société. Allemagne, deuxième partie, on prend la direction du Chili, où les Haïtiens constituent la quatrième communauté d'étrangers la plus importante, derrière les Vénézuéliens, les Péruviens et les Colombiens. Selon les chiffres les plus récents du Service national des migrations, le nombre d'Haïtiens qui vivaient dans le pays fin 2022 s'élevait à 185 000, une population qui a considérablement augmenté après le tremblement de terre de 2010 qui avait frappé l'île, mais qui stagne depuis quelques années. En cause, des difficultés pour obtenir des papiers, une intégration pas toujours facile ou encore l'appel du rêve américain plus attractif que la vie chilienne. À Santiago, le reportage de Naïla Dorouané.
Dans le centre de la capitale, aux abords de l'ambassade haïtienne, plusieurs dizaines de personnes font la queue et attendent leur tour pour divers rendez-vous administratifs. Un petit groupe de femmes haïtiennes vend des sandwichs et juste à côté, un jeune homme s'est installé avec une imprimante et propose des services d'impression de documents. Garvins, dans la file, attend son rendez-vous. Cela fait 8 ans qu'il habite au Chili et 6 qu'il travaille comme agent d'entretien. Il ne parle pas très bien le français et préfère s'exprimer en espagnol, langue qu'il a apprise ici en arrivant.
Je suis venu chercher une vie meilleure. Il y a trop d'insécurité en Haïti. Je suis ici au Chili pour avoir quelque chose de mieux et prendre soin de ma famille.
Sa famille, qui est restée en Haïti et à qui il envoie de l'argent, Garvins souhaiterait la faire venir au Chili. Mais pour cela, il lui faut des documents pas faciles à obtenir.
Par exemple, le certificat de naissance.
Le certificat de naissance, par exemple, il faut aller le faire légaliser là-bas en Haïti. Mais rien que ça, c'est compliqué à cause de l'insécurité. Passer d'une rue à l'autre, c'est parfois difficile.
Et les galères administratives ne se limitent pas au certificat de naissance. Il y a aussi
le certificat antécédent pénal.
Autrement dit, le casier judiciaire, document indispensable pour se régulariser et obtenir le statut de résident permanent au Chili pour ensuite espérer avoir un contrat de travail. Mais là encore, il y a des freins pour les Haïtiens, c'est ce qu'explique Ménès. Il vit au Chili depuis 7 ans.
En Haïti, on n'a pas un système digital comme les autres pays. On a un système archaïque. Maintenant, on a un État failli. Donc les institutions en Haïti ne fonctionnent pas. C'est difficile d'avoir ce document et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Haïtiens on ne peut pas obtenir son résident définitif et d'autres documents.
Et puis, il faut aussi s'adapter à ce pays si loin et si différent, raconte-t-il.
C'est pas beaucoup, mais un petit peu du racisme, tout ça. C'est difficile d'intégrer complètement quand on a une autre culture, quand on a une autre langue, une autre réalité. Ça prend du temps pour s'intégrer dans la nouvelle communauté. C'est la raison pour laquelle beaucoup des Haïtiens ont quitté le pays.
En 2021, le Chili a enregistré plus de départs que d'arrivées d'Haïtiens sur son sol. Mais difficile de savoir combien exactement sont partis, car certains passent les frontières terrestres en contournant les autorités migratoires.
Allô?
Willy, un jeune Haïtien de 25 ans, a quant à lui quitté le pays en bus l'année dernière, après 6 ans passés dans la capitale chilienne, après avoir obtenu un diplôme en gestion d'entreprise et après avoir travaillé plusieurs années dans un hôtel à Santiago.
Le problème ici, c'est que pendant tout ce temps au Chili, je n'avais pas la résidence permanente. Ma demande de visa est refusée. Et là, j'ai dit non, je devrais prendre un autre chemin.
Il décide alors de se rendre aux États-Unis.
Les États-Unis, pour beaucoup, c'est la terre promise. J'ai pris la décision de quitter le Chili parce que je voudrais pas simplement vivre une nouvelle aventure, mais en recherche d'opportunités meilleures.
Après 18 jours de voyage en bus et à pied, Willy a réussi à rejoindre les États-Unis. Il vit désormais à Boston et travaille comme bagagiste dans un hôtel et reconnaît que pour l'instant, ce n'est pas forcément plus facile qu'à Santiago.
Même si tu gagnes de l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent ici, mais tout est plus cher. Le loyer, les fringues, la locomotion.
Jusqu'à présent, Willy, qui maîtrise l'anglais, s'en sort plutôt bien et il est content de sa décision d'avoir quitté Santiago, ce qui n'est pas le cas d'autres Haïtiens aux États-Unis avec qui il a discuté.
Il y en avait beaucoup de gens qui sont vraiment regrettés de laisser le Chili parce que même si tu parles l'espagnol, le marché en fait est dominé par la langue anglaise. Alors, il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de l'anglais. Il y en a qui n'ont pas où habiter. Ce sont des SDF actuellement. Ce n'est pas aussi facile, même si tu atteins l'objectif d'arriver aux États-Unis.
Mais d'autres ne parviennent même pas à atteindre cet objectif. Et parfois, ce sont même des familles entières qui, sur la route de l'exil après avoir quitté le Chili, se font renvoyer vers Haïti. Ce qui pose un gros problème pour les enfants d'Haïtiens nés au Chili, explique Rodolfo Noriega, président de la Fondation pour la Défense des Migrants.
Selon la loi et la constitution chilienne, les enfants nés au Chili de parents haïtiens sont chiliens, mais ils voyagent avec leurs parents et se présentent donc eux aussi comme haïtiens. En arrivant aux États-Unis ou dès le Mexique, ils se font arrêter et renvoyer en Haïti, alors même que ces enfants ne sont pas nés là-bas. Il y aurait 4000 enfants chiliens expulsés des États-Unis vers Haïti.
Selon Rodolfo, le Chili ne semble pas jusqu'à présent s'être intéressé au sort de ses enfants nés sur son sol et renvoyés vers un pays où règne le chaos. Naïla de Rouanet à Santiago pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Il suffit de taper Vue d'Allemagne dans le moteur de recherche. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Tchuss!